Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Sur le festival du souffle du rêve, de belles rencontres et de beaux échanges. Parmi les intervenants présents, Simet Maya qui est venue présenter les traditions et coutumes des peuples mayas et aztèques via l'association Europe-Mexique International.
La fondatrice est devant nous, c'est Simet Maya. Simet Maya est la représentante accréditée en France reconnue par la tradition, le conseil de vision des anciens mayas du sud du Mexique. Et reconnue aussi par le conseil de vision de la tradition aztèque de Mexico. Donc c'est elle qui a l'autorité morale et qui a été spécialement désignée pour représenter ici en Occident la tradition maya et de réagir quand il y a un certain nombre de distorsions comme il y en a eu à propos de 2012, de cette déferlante apocalyptique au niveau de la fin du monde qui n'en était pas, c'était la fin simplement d'un monde, d'un temps, c'était la renaissance d'un nouveau temps. Mais peut-être on aura le temps d'en reparler.
Simet Maya, bonjour.
Hola, ¿qué tal? En la queche. Mi nombre es Simet Maya, si lo decimos en el tiempo gregoriano, mi nombre de tradición es Kinichaja Ojunlajun, o una mujer medicina como Ixchel Balam, que quiere decir mujer medicina jaguar.
Donc Simet Maya donnait son nom de tradition, qui signifie qu'elle est femme médecine du peuple maya.
Donc Simet Maya, je sais que vous parlez un petit peu français.
Moi, je nais à Palenque, c'est une petite ville dans l'époque que c'est dans l'état de Chiapas. Au sud du Mexique, c'est un peuple premier, qu'il y a la grande pyramide qui s'appelle Palenque. Et notre dernier empereur s'appelait Pacalbotán. C'est lui qui a laissé tous les messages précisément sur son lapide pour cet grand événement de 2012. Et c'est là la grande clé pour tout le peuple maya et le grand message pour toute l'humanité.
Quand vous étiez enfant, c'est quelque chose dont on parlait déjà, de la cosmologie, du calendrier maya, de cette fin du cycle de 21 décembre 2012
Oui. Normalement, j'ai ce qui s'appelle le dernier moment des 5125 années. Et là, la tradition s'est préparée précisément pour accueillir le 21 décembre 2012. Et 2012, c'est vraiment le passage pour la nouvelle ère qu'on était préparé à niveau de la tradition. On était préparé à niveau de les danses, de porter l'énergie, parce que quelques moments, il y avait beaucoup de gens ici en Occident qui avaient trop de panique, la peur et beaucoup la diffusion incorrecte du peuple maya. Que c'était la fin du monde, vraiment jamais. Mes ancêtres, ils ne sont pas parlé de la fin du monde. Ils sont parlé de la fin d'un monde. Un monde que c'était la nouvelle ère.
Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sorte de plaquage des conceptions apocalyptiques, notamment chrétiennes ou autres, sur les conceptions mayas. Pour le peuple maya, nous sommes un certain nombre d'intellectuels qui sommes allés aux côtés du peuple maya. Il y a eu Jean-Marie Gustave Leclésio qui a traduit le livre des prophéties mayas, le Chilambalam qui est aux éditions Gallimard. Il y en a eu d'autres qui sont allés travailler avec eux parce qu'on a trop parlé pour les peuples premiers. Et donc certains d'entre nous sommes allés sur le terrain de manière à recueillir leurs témoignages et à pouvoir essayer de donner réellement l'essence de leur message. Par rapport à cette histoire de 2012, on a publié dans Le Monde, on a publié dans Libération, à l'initiative de Simet Maya et de la tradition, un certain nombre d'articles qui n'ont pas été pris, qui n'ont pas été regardés parce que ça n'intéressait pas. Ce qui intéressait, c'était de créer de la panique, de faire de l'argent avec un commerce et une sorte de production hollywoodienne où on fait peur aux gens. Par contre, sur le terrain, pour le peuple maya, c'était une espérance. À savoir que c'est un des rares peuples, ils sont l'inventeur du zéro avec l'Inde, ils avaient des conceptions mathématiques absolument inouïes, des conceptions géographiques et des connaissances de la naturopathie qui dépassent aujourd'hui même notre compréhension. Et pour eux, ils ont pris une unité de temps qui est la giration de la galaxie sur elle-même, que les astronomes aujourd'hui assimilent au cycle de la précession des équinoxes, à savoir 26 000 ans. Donc pour eux, il y a une corrélation entre la maternité cosmique, qui est de 26 000 ans, et la maternité de la femme Maya, qui est à peu près de 260 jours, plus ou moins 5 jours. La fin de ce cycle, selon certaines corrélations qu'on appelle la GMT, se serait située aux alentours du 21 décembre 2012. Donc, on était avec Simet Maya, qui était au sommet spirituel de Mérida, devant la pyramide d'Uxma, le 21 décembre 2012, lors d'une grande cérémonie où est venu Ruiz, qui a écrit les quatre accords Toltec, où est venu le professeur Kalman, et bien d'autres, et beaucoup de chefs de tradition pour ce moment. Alors, ce moment, il y avait réellement une différence totale entre ce qui se passait ici en Occident, avec des théories comme sur Bougarache ou autres, et ce qui se passait au Mexique. Au Mexique, le peuple maya était dans la joie. C'était un peu comme si un nouvel enfant arrivait, comme si on avait fait une traversée du temps et que maintenant l'humanité avait accédé à un stade où elle était désormais capable, après avoir traversé le temps, d'accéder à l'ici et maintenant. Parce que pour les mayas, ce qui est important, c'est leur temps naturel. Se situer en harmonie avec les éléments, respecter notre mère Terre, est en corrélation avec le Père Soleil. Leur cosmologie, c'est de nous expliquer que le grand univers qu'ils appellent Hunabku, la Mère Terre, Madre Tierra, le Père Soleil, Ahao, Kinichahao, nous devons être en harmonie avec eux. Et donc, leur message, et Simet va en parler beaucoup mieux que moi, c'est leur message était un message d'alerte à l'Occident, de dire, attention, maintenant, vous avez pollué votre mère Terre, vous avez dépassé les limites, vous devez vous situer en harmonie avec elle. Et d'autre part, un message d'espérance. Le moment est maintenant venu où il est capable de travailler et d'être en harmonie. Et le sens de sa présence au niveau des festivals, c'est effectivement de proposer cette tradition.
Pour en revenir à ces traditions, quel est le message du peuple maya ici en Occident? Pourquoi votre présence ici parmi nous?
Bon, la présence n'était pas aujourd'hui ni hier. On a 28 ans qu'on pérégrine pour toute l'Europe, précisément pour partager cette sagesse de pas la peur, pas la panique. Une sagesse qui c'est un part d'alerte et d'espérance. D'alerte parce que normalement au niveau de l'écologie de toute l'humanité, il est vraiment, vraiment très, très touché la mère Terre. Il est vraiment, il n'y a pas aucun respect. Le que vous dites ici, l'écologie, pour nous, c'est part de la vie quotidienne. D'abord, de dire merci à la mère Terre, de travailler avec les éléments, d'être en communion avec cette vibration, sinon tu te perds dans tout ce monde grégorien. Dans ce monde qui mécanise à l'humanité, et de le dire à les jeunes ici que nous ne sommes pas des machines humaines, nous sommes vraiment des êtres humains, qu'on a beaucoup de lumière. Si vous voulez, dans la cosmologie maya, on ne parle pas de l'astrologie. L'astrologie. Chez nous, il n'existe pas l'astrologie, c'est l'astronomie plus loin qu'un simple calendrier maya, et que nous sommes submergés dans un temps naturel, harmonique, avec le cosmos, la mer Terre, le vent, l'eau et l'air. C'est-à-dire garder cette fusion en communion, de mettre en valeur la humanité et finir avec cette mécanique humaine. Parce que nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains, comme je répète, et de garder toujours cette communion avec la nature. Parce que sinon, c'est une autodestruction d'abord, et après la destruction pour ta famille et toute la collectivité de ton peuple. On vient là pour donner un message, beaucoup, beaucoup d'amour. On travaille beaucoup avec les cinquièmes éléments, que c'est l'élément de l'amour. Même si tu as beaucoup de sagesse, mais tu as beaucoup de techniques pour les choses, si tu ne partages pas avec l'amour, il n'y a rien dans ton corps, il n'y a rien pour l'humanité, il n'existe plus la famille. Donc on vient là pour partager la vibration d'amour, la vibration de respect, la vibration que tu, avant d'aller pour te soigner dehors, soigne-toi dedans, parce que tous nous sommes des hommes et des femmes de médecine. Moi, ça m'embête un petit peu quand les jeunes me disent « chaman ». Moi, j'aime pas cette parole d'abord, parce que moi, je suis une femme de médecine. Et moi, je viens ici pour partager cette vibration que tous et toutes, nous sommes capables de transmuter toutes ces négativités dans nous-mêmes avec notre propre médecine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je partage des 5 ans en arrière jusqu'à aujourd'hui, ce qui s'appelle le Kinan Maya. Le Kinan Maya, c'est une discipline qu'on travaille d'abord à l'individualité pour arriver à la collectivité, de savoir que nous ne sommes pas toutes seules, que si on peut y aller tous ensemble d'un côté ou de l'autre côté, on crée la grande force. Et cette force ici en Europe, au Mexique, en Japon, en Inde, partout, si on a cette conscience, cette expansion de conscience, on peut arriver à sauver l'humanité.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Je pense au peuple premier. Souvent, ce message du respect, de l'amour, le respect de la terre, le respect de l'homme, le respect de son environnement, c'est quelque chose qui est propre, que ce soit les aborigènes, que ce soit la culture maya, que ce soit tous les peuples racines dont on peut rencontrer sur Terre. Même ici en Occident, pendant longtemps, on suivait les lois de la nature, on observait les lois de la nature.
C'est seulement
la tradition celte, c'est seulement depuis quelques centaines d'années que l'homme s'est lancé dans une course effrénée au profit, au développement matériel, au développement économique, et s'est un petit peu déconnecté de ses valeurs spirituelles, de ses valeurs d'amour et de respect de soi, de l'autre et de la terre. Qu'en est-il du peuple maya? Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment aussi où les mayas ont été tentés de rentrer dans ce modèle économique imposé par l'Occident?
D'accord, d'abord, quand j'arrivais ici, que j'étais très jeune en Occident, et les gens me demandaient pour mon aspect, parce que j'ai les cheveux longs, etc., très différents que l'Occident. Et ils me disent, tu es de où? Et je dis, Maya. Maya? Ils sont vivants, les Mayas? Et moi, je rigolais, parce que jamais on était vraiment tués. À partir qu'il a venu la conquête au Mexique, surtout au sud du Mexique, les anciens sont courus dans les montagnes, parce qu'on a des pleins de montagnes, on a beaucoup de rivières souterraines. On a beaucoup de cenotes sacrées, on a des choses que la civilisation occidentale n'arrivait pas parce que ils s'étaient cachés dans la jungle, etc. Donc jamais ma tradition elle était coupée de sa tradition. Nous sommes un peuple millénaire qui a continué à développer cette tradition, cette sagesse de génération en génération avec la parole. Quelques moments, ça me gêne un petit peu quand je vois dans les livres qu'écrit les gens pour les Mayas, il y a beaucoup de choses que ça ne marche pas du tout, des choses que ce n'est pas correct, des choses qui font une corrélation que ce n'est pas exacte. Donc moi, je viens ici pour partager que vraiment rentrer dans la réalité, que ce n'est pas ça les Mayas. Les Mayas, nous sommes vraiment trop attachés à les Pléiades. Nous sommes d'abord un peuple qui, à niveau c'était pas vraiment un peuple guerrier comme on s'écrit dans les livres sanguinaires, c'est pas vrai. Les Mayas, c'était des philosophes, des astronomes, des observateurs des étoiles. Et c'est la première civilisation dans la Terre qu'il a inventé Lucero. Il avait un observatoire excellent. Et la corrélation de les équinoxes et les solstices, c'est exact. Et c'est là qu'est né le calendrier qui s'appelle le Solkin, en corrélation avec les Hab et la Contlong. C'est-à-dire, dans mon peuple, ça existe 3 calendriers qui vont dans une position très exacte et qui correspondent à le temps réel, qu'il n'y a pas d'altération à niveau des corrélations exactes de les jours, la nuit, les équinoxes, les solstices, etc. Mais je pense qu'Alain, elle peut expliquer un petit peu plus à niveau du français, parce que c'est très cool ce que j'aimerais bien d'exprimer.
On va voir avec Alain, mais j'aimerais juste qu'on recadre un petit peu. Donc là, on parle bien des Mayas. Souvent, quand on pense aux Mayas, on mélange tout ce qui est Maya, Inca, Aztèque.
Ok, bueno. Le peuple Maya, il est divisé en 4 régions, que c'est Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, la moitié de Oaxaca, que c'est la région mixteco-zapoteco-maya. Donc, les Mayas sont surtout au sud du Mexique et part de Guatemala, Belize et Honduras, en Centro-Amérique. C'est une région très, très forte. Et aussi, quelques moments, ils sont venus les Toltecs pour rentrer dans cette tradition. Et après, il est né les Mayas Toltecs. Mais vraiment, les Mayas s'étaient fondés dans la région complètement sud, que c'est la péninsule de Yucatán.
Vous disiez avant, quand vous êtes arrivé en Europe, et on disait, tiens, d'où est-ce que tu viens ? Je suis Maya. Les gens disaient, mais ah bon, il en reste encore ? Aujourd'hui, quelle est la place de la culture Maya ?
Actuellement, tout notre peuple Maya, il est vraiment l'exemple de tout le Mexique. Parce que vous voyez, au Mexique, on a beaucoup de traditions comme les Toltecs, les Aztecs, les Nonoalcs, les Chichimecs, etc., etc. Et maintenant, comme les Mayas sont restés dans sa place avec cette force de tradition, avec des racines, vraiment, nous sommes un exemple très, très, très fort pour le Mexique et même pour la planète. Beaucoup de gens sont venus au Mexique pour s'installer, pour savoir cette sagesse, comment ça se passe, pourquoi il y a beaucoup de réserves, pourquoi il y a beaucoup de la médecine naturelle. On travaille beaucoup avec les plantes, on travaille beaucoup avec le musée de la médecine maya et chez nous. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup de choses qui nous soignent. C'est une façon de vivre d'une autre façon. Et ce que j'aimerais bien de partager, si vous avez l'opportunité de venir au sud du Mexique, venez parce que c'est des choses qu'on vit vraiment très fusionnées avec la nature. Nous sommes en communion toujours et c'est ça le qui aide à trouver la joie de vivre. Je pense que nous sommes de passage, nous sommes une petite lumière dans l'espace qui passe pour une seconde. Et c'est bien de profiter la vie comme il faut, de se respecter d'abord et de donner ce qu'on a. De partager les choses, c'est pour ça que nous sommes là.
Quand on regarde les peuples premiers, les peuples racines sur Terre, on se rend compte que les aborigènes n'ont presque pas résisté à l'emprise du capitalisme et du matérialisme. L'alcool a détruit beaucoup de populations. En Amérique du Nord aussi, les Indiens ont énormément souffert de l'arrivée de l'homme blanc sur leur continent, sur leur terre et de l'alcool. Comment se porte aujourd'hui la culture maya ?
Il y a quelques années aussi qu'ils sont venus, qu'ils sont rentrés dans les réserves, les gens qui même ils ne parlaient pas l'espagnol, il a rentré l'alcool et tout, la destruction c'était horrible avec des choses que c'était pas le cas et voilà, le Mexique il s'est battu pour sortir cet style de choses et plusieurs des marchés que ça correspondait pas à les Mayas, la contamination etc, les maladies aussi parce que bon. C'est complètement différent. Entre parenthèses, j'aimerais bien de dire que je suis là dans ce festival parce qu'il y a une nouvelle façon en France de vivre, de sortir un petit peu de ce monde grégorien et de retrouver l'autonomie. J'aime bien quand je vois à la famille de les quatre jeunes qui sont habillés dans des couleurs très différentes, que je l'ai connu 8 ans en arrière, que c'était presque des enfants, et je lui ai dit, battez-vous, allez-y, foncez, parce que vous êtes le futur de la France, vous êtes l'exemple de cette terre de Occident, et maintenant je suis vraiment très contente de voir comment où ils sont arrivés à ressembler beaucoup de monde, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, que c'est magnifique, et bravo, parce que je me sens ici comme le Mexique, beaucoup de partage, beaucoup de couleurs, beaucoup de choses qui sortent de l'ordinaire, mais que c'est un message pour l'humanité, qu'on peut retourner vraiment à être autosuffisante, autosuffisant.
Autonome, oui. C'est vrai que sur ce festival, c'est vraiment ça, c'est l'autonomie, que ce soit au niveau énergétique. Hein, l'énergie produite ici vient du solaire, vient du vent, vient de l'huile de friture. Donc il y a vraiment cette notion de respect. C'est peut-être ça qu'ont voulu mettre en avant les organisateurs. Respect de la terre, respect de soi, respect de l'environnement, pour redonner l'exemple et montrer que vivre autrement, c'est possible. Alain, toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la culture maya, au peuple maya ? Comment s'est passée cette rencontre et pourquoi est-ce que tu es devenu le traducteur de ce peuple ?
C'est un long parcours. Disons que par ma lignée maternelle, je suis lié à la tradition métisse du Canada. Pour ma grand-mère, mon arrière-grand-mère voit Sitting Bull après la bataille de Little Big Horn qui traversait les Rocheuses. Et il y a eu ma famille... toujours a été aux côtés des Indiens. Donc pour moi, c'est pas une mode, c'est pas un nouveau moment, c'est vraiment une transmission. J'ai ensuite beaucoup travaillé à La Réunion, sur l'île Maurice, en Inde, et j'ai appris surtout le service, surtout être ici, maintenant, et d'être capable de donner dans l'instant ce que tu peux donner. Et la rencontre avec Simet Maya est une rencontre fantastique, il y a une dizaine d'années maintenant, où j'ai pu voir cette présence dans les cérémonies, j'ai pu voir cette force, sans doute que tu l'as ressentie quand tu as filmé, et j'ai été immédiatement attiré par, entre guillemets, la magie, la puissance de ce rituel, cette capacité de faire passer au travers d'une roue de médecine des gens qui sont dans leur mental, dans leur émotion, dans leur pensée, à un niveau individuel, et de passer à un niveau, je dirais pas collectif, mais trans-individuel, c'est-à-dire d'accéder à quelque chose qui, à un moment donné, est un seul corps, un seul souffle, une seule pensée. Et étant profondément attiré par cela, je suis venu vers elle, et petit à petit, elle m'a emmené au Mexique, avec les Mayas, et j'ai reçu un accueil tellement formidable de ce peuple, qui m'a accueilli dans leur tradition. Et ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'ils ont l'habitude, pour revenir à l'alternatif, ils ont l'habitude profondément de la crise. Ils vivent à côté d'un grand voisin, les États-Unis. Pour eux, la crise n'a pas vraiment de signification. Alors qu'en Inde, la crise existe aussi, est une sorte de fatalisme, de résignation. La force, la puissance des Mayas et du Mexique, c'est leur joie de vivre. C'est-à-dire, ils sont et ils vivent avec de la joie. Pour eux, ils sont fils et filles de la mère Terre. Ils sont en communication avec les éléments. Leur message, le message Iya, n'est pas du tout un message d'annihilation, du mental, de cessation, des pensées, d'arriver à un état bouddhique. Leur message est de vivre et de comprendre qu'on a cette mère Terre qu'il s'agit de rénover, à qui il s'agit de donner toute la joie, la puissance, la fantaisie possible. Et donc, ils ont su réveiller en moi ce rire intérieur, cet enfant intérieur, cette connexion avec le médecin intérieur. Et voilà pourquoi je me suis mis au service de leur tradition.
Aujourd'hui, sur le festival, cet après-midi, il y a une cérémonie qui va avoir lieu. De quoi s'agit-il ?
On va partager aujourd'hui la troisième part de Kinan Maya. Kinan Maya, c'est une discipline qui s'est travaillée dans les anciennes Mayas. C'est une discipline millénaire qu'on travaille vraiment avec l'énergie. L'énergie que ça te transmute toutes les maladies. Comme je dis, avant d'aller à la pharmacie, que c'est super bien d'avoir des médecins à côté de nous. Mais d'abord, de transmuter en nous-mêmes, si c'est possible, de transmuter toute cette énergie. Si c'est pas possible, pourquoi pas? Après, d'aller au médecin, c'est pas mauvais non plus. Mais de savoir se maîtriser, parce que quelques moments, même si on a un petit peu mal à la tête, allez, on y va, on prend une aspirine ou tout, mais petit à petit, l'aspirine de tous les jours, bon, ça contamine un petit peu. Mais c'est meilleur que tu te soignes avec l'énergie et garder toujours ton médecin, pourquoi pas. Mais le médecin, on la conseille quand les maladies, il n'y a pas aucun remédio. Mais d'abord de savoir maîtriser l'énergie, parce que toujours en Occident, ça tombe immédiatement dans le mental, et c'est une pathologie très très forte que j'ai trouvée ici en Europe. Le mental, je sais que c'est une vie très différente que le Mexique, et c'est pour ça que nous sommes là pour aider, pour transmettre cette sagesse, parce que c'est une sagesse très forte qui se travaille de plusieurs mille années en arrière. Et aussi, ce travail, parce que vous savez, dans l'époque et même aujourd'hui, les Mayas sont des gens très, très bons physiquement, très, très puissants à niveau énergétique. Mais la seule chose qu'on travaille aussi, c'est de savoir que l'ego, c'est très important, mais pas à tel degré que tu détruis l'humanité. Et l'ego, c'est bien, mais de savoir maîtriser cette énergie, c'est bien. De savoir que si, par exemple, tu es dans l'extrême de fumer ou de l'alcool ou quelque chose comme ça, le travail qu'on fait antérieurement, quelques moments, boum, il arrête tout, parce que vraiment, il dégage toute cette chose, tout ce blocage, toute cette peur, toute cette panique. Donc, je travaille vraiment avec la route de la médecine, etc. Mais aujourd'hui, on va partager la connexion avec le Pléiade, parce que le Pléiade, c'est un travail très fort pour nous, et le cinturon d'Orion. C'est la connexion de savoir que les êtres humains ne sont pas seulement dans la Terre. On a beaucoup de la géométrie sacrée maya. Et la géométrie sacrée, ça veut dire que c'est nécessaire que tu connais c'est quoi ton agual totem protecteur, ton agual solaire, ton totem lunaire, parce que nous sommes, nous ça on a de l'énergie lunaire et solaire. Et c'est nécessaire que tu te connectes avec cette vibration et que tu n'oublies pas que tu es fille et fils de la Mère Terre. Et d'aligner aussi cette vibration au niveau de la géométrie, parce que tout dans l'espace, c'est la géométrie sacrée. Donc cette géométrie, c'est du macrocosmos au microcosmos que nous sommes tous.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Il y a un mot clé qui a été prononcé par Simet Maya, c'est les Mayas sont vivants. La tradition Maya est vivante. Quand arrive la civilisation que le peuple Maya appelle grégorienne, grégorienne du pape Grégoire, du pape Grégoire, du pape Julien, de ce calendrier avec des mois de février, de mars, de décembre, qui pour eux est un temps erroné, on leur impose, on essaie de détruire leur culture, elle a survécu, la tradition s'est réfugiée dans les montagnes, dans les rivières souterraines, comme Simet a dit. Donc la tradition a survécu, elle a su s'organiser, elle a eu le temps de s'organiser de manière à survivre. Et quand la civilisation grégorienne arrive, avec cette notion du temps, une autre langue, d'autres modes de culture, jamais ils ne parviendront à détruire les centres opérationnels de la civilisation maya. Deux centres opérationnels, pour donner deux exemples, c'est un, les mayas étaient des gens extrêmement propres, avec une alimentation extrêmement saine, et ils étaient habitués à se nourrir au niveau de la nature, en harmonie avec la nature. Ils avaient une pratique qu'on retrouve du reste chez d'autres peuples, mais qui est un peu différent, qui s'appelle le temashkal. Le temashkal, c'est une sorte de hudation, de nettoyage, un temashkal domestique. Dans chaque maison maya, il y a un temashkal domestique. Ils ont essayé de les détruire, ça n'a jamais été possible. Un autre exemple, c'est la structure, organisationnelle sociale des mayas. Il y a eu création de gouvernement, création de parlement, création d'État. Mais le peuple maya a toujours obéi à une structure fondamentale, le Conseil des Anciens. Toutes les tentatives de destruction du Conseil des Anciens ont échoué. Et aujourd'hui, avec cette renaissance aujourd'hui de la tradition, on assiste effectivement à une floraison de pratiques de temashkal, une floraison à une puissance accrue des conseils des anciens qui se mettent en liaison avec les uns et les autres et qui envoient ce message de paix et d'harmonie. Donc la tradition maya est vivante et elle vient ici pour partager effectivement toute cette sagesse qu'ils ont, cette joie de vivre, cette harmonie.
Selon vous, à quoi est due cette renaissance de la culture maya aujourd'hui?
Elle est née au nouveau temps, c'est comme Simet vous le disait, on vient de traverser une migration galactique qui maintenant fait que il est désormais possible d'accéder au niveau planétaire à un autre mode de vie. Ça a été prévu, que ce soit en Inde par Sri Aurobindo qui parle de descente du supramental à un certain moment donné. Ça a été prévu par Teilhard de Chardin, qui était à Paris en 1930, dans les années 30, et qui, avec un groupe de physiciens, avait créé le concept de noosphère. Le noosphère, c'est que lorsque l'humanité accédera à un nombre de cerveaux suffisant, elle ne deviendrait qu'un seul cerveau. Donc, il y a eu effectivement des ressentis antérieurs, que ce soit en Inde avec Sri Aurobindo, que ce soit ici en Occident avec Teilhard de Chardin et d'autres, de l'accès à cette nouvelle conscience, de cette nouvelle ère. Donc désormais, c'est possible, et on voit au travers de festivals comme cela, d'initiatives de tipis, de yurts, de modes économiques différents, de troc, de tous ces concepts où l'humanité est en train de réinventer un mode de vie, de se retrouver dans un temps qui n'est pas celui de l'horloge, qui n'est pas celui de la montre, que les Mayas appellent un temps erroné, mais qui est celui du temps naturel, c'est-à-dire de l'ici et maintenant. Donc c'est tout ça qui est partagé.
Merci à vous et in Lakesh, Alanken, ça veut dire je suis toi et tu es moi. C'est-à-dire c'est une salutation millénaire qui parle vraiment de la vibration d'amour et de respect. Et avant de partir, j'aimerais bien te dire merci à le grand esprit, à la mère terre, à l'air et Hekar. Toute cette vibration de Wewetéotl, notre grand-père, que c'est le feu sacré qui le présente dans toutes les traditions de notre mère terre et Inlakesh, Alankin.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.